Seigneur, bénisse tous richement. Nous avons le privilège de nous réunir ce matin. Nous en sommes reconnaissants et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Et puissent toutes les prières que vous avez adressées, puissent-elles avoir été entendues. Il est une chose que je voudrais dire aussi, c'est que quand je dis ne prenez pas les médicaments à jeun, hein, Maman Astrid, pas seulement, vous n'êtes pas obligé de prendre que du yaourt. Hein. Les diabétiques se piquent l'insuline, ils doivent manger. Ça va? Il y a plusieurs manières de jeûner. Ah, plusieurs, pas seulement se priver de nourriture. Si vous prenez dans Ésaïe 58, par exemple. Nous avons dit que nous prierions pour nos malades. Et nous avons, instruit, comme dit la Bible dans Daniel, nous avons instruit les bien-aimés des cas difficiles qui sont dans l'Assemblée. Je n'ai pas pu tous les citer vendredi. Il y a le cas des enfants, il y a Aïcha, bien sûr, il y a Agapé, il y a le frère Corneille, j'ai pas cité, je ne sais pas si j'ai cité, mais ce sont des bien-aimés parmi nous qui ont besoin de prière. Mais certainement d'autres enfants qui sont dans le besoin, et même des adultes. Et pas seulement question de maladie, mais question de consolation aussi, ou de réconfort. Les gens en ont besoin. Dans Ésaïe 58, nous voyons, nous lisons ceci. Il faut verset 3, on ne va pas trop traîner. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Quand on jeûne, on oublie un peu ses penchants. Les penchants peuvent être bons ou mauvais. Il y a des mauvais penchants, il y a des penchants pour lesquels on n'a rien contre, mais ce jour-là, quand vous jeûnez, vous les oubliez. Par exemple, je ne sais pas moi, vous aimez le football, il y a la finale de la Coupe du Monde. Ce jour-là, si vous êtes en jeûne, vous oubliez la finale de la Coupe du Monde. Ça va? Vous oubliez ça. C'est un exemple. Ce sont ces choses que vous aimez. Vous aimez faire du shopping, vous oubliez le shopping. Vous aimez avoir une maison bien en ordre, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Mais quand vous jeûnez, vous oubliez ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre de l'ordre, vous allez vous fatiguer. Après, vous ne prierez plus comme vous l'auriez souhaité. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Faut être bon envers tout le monde. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, il dit, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Il dit non. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Oh, ça continue, hein, vous savez. Ce qui peut vous arriver quand vous faites un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ça va? Daniel, vous pouvez voir Daniel par moment où, c'est dans Daniel 10, il devait jeûner pendant longtemps. Il n'allait pas se priver de nourriture pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il aimait la viande, Daniel, je n'en sais rien. Mais il n'a pas mangé de viande, ni bu du vin pendant 3 semaines. Et ne croyez pas que c'est une mince affaire, hein. C'est déjà arrivé, essayez, vous ne mangez pas, ne prenez que la soupe pendant une semaine et ne mangez rien d'autre. Vous allez voir que c'est un jeûne. Vous vous privez. Et Daniel, il a prié et jeûné pendant 3 semaines. Verset 2. D'abord, il y a ce verset premier, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Oui. Faites comme vous vous sentez conduit. Et comme ça, et faites-le dans la joie. Comme le Seigneur, en vous lavant, en vous parfumant. Bien, nous avons instruit l'Assemblée du cas de Maman Isabelle. Nous avons prié tout au long de ce week-end pour elle et nous continuons à prier. Je crois que Dieu a entendu les prières. Je le crois de tout mon cœur. Vous savez, quand l'Assemblée est en prière, quand l'Assemblée est en attente, on le sent même depuis la maison. C'est moi qui me prépare à prêcher, je le sens. Et je le sens aussi parfois en entrant. Il y a des jours où je comprends, je vous l'ai déjà dit, je comprends pourquoi je suis en retard. Parce que quand j'arrive en retard, je vous trouve dans une telle onction. Je me suis dit, Dieu voulait absolument que vous le louiez ainsi. Et tout s'arrange à la maison pour que je sois en retard. Ou alors j'arrive. Ici, sous le pont, le chemin est bloqué, je dois refaire tout le tour. Et quand j'arrive, je ne sais pas si les autres passants entendent, mais moi j'entends déjà depuis le coin de la rue comment l'assemblée est en train de chanter. Oui, c'est très bien, et ça attire très bien souvent l'attention des passants, même ceux qui sont sur l'autre trottoir. Louez votre Dieu de tout votre cœur. Amen. Ah, nous allons continuer. Nous allons prier à la fin du culte. Après la prédication, nous aurons un enfant à présenter. Mais est-ce que Madi est là? Ok. Il y a le fils de Madi à présenter. Soane. Les prénoms deviennent de plus en plus recherchés. Mais ils sont de plus en plus beaux aussi. Non, ça va, on priera à la fin du culte. On le fera après la prédication. Donc, on présentera le petit après. Ça va. Nous allons prier. Père céleste, c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de ta présence. Lorsque tes enfants s'assemblent sous une telle onction, nous savons que selon ta promesse, tu es au milieu d'eux. Et cela nous remplit d'un respect profond. Cela nous remplit de crainte, sachant que le Dieu créateur s'est abaissé jusqu'à venir au milieu de nous, laissant les louanges des êtres qui n'ont jamais péché, des êtres célestes, pour venir recevoir la louange de pécheurs sauvés par sa grâce. Cela dépasse notre entendement, mais cela ne nous empêche pas de te dire merci. Aussi, veuille nous conduire ce matin. Veuille inspirer ta parole. Nous inspirer pendant que nous écoutons. Nous inspirer pendant que nous prêchons. Que tout ce dont nous avons à dire ce matin vienne de toi. Et ce qui n'est pas de toi, puisses-tu nous l'enlever et de la langue, et des oreilles, et du cœur. Que nous puissions retenir ce qui est nécessaire à notre salut. Reçois l'adoration qui t'a été adressée, s'il te plaît. Veuille bien recevoir les louanges ainsi que les prières qui t'ont été adressées. Pendant tout le week-end, tes enfants ont crié à toi en faveur de la maman que tu leur as donnée. En faveur des enfants que tu leur as donnés, en faveur des frères et des sœurs que tu leur as donnés, selon la promesse que tu as dit que nous, dans ce siècle-ci, ceux qui ont quitté leur père, leur mère, leur maison, retrouveront une maison, un père, des mères, des frères, des sœurs et des enfants, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous te en remercions. Béni sois-tu. Nous nous attendons à toi. Nous attendons à de grandes choses, pas de manière spectaculaire. Tu fais dans la simplicité de grandes choses. Et nous croyons déjà que tu nous as exaucés. Non pas sur base de nos mérites, mais sur base tout simplement de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons donc nous lever, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, pas de relâchement, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Il est important de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et la pleine espérance que nous avons depuis le début, depuis que nous avons cru, cette pleine espérance, c'est l'espérance de la venue du Messie promis, du Christ promis. Messie et Christ, ça veut dire la même chose. Dans le langage courant, lorsque dans le monde on parle d'un Messie, celui-là, il est le Messie, ça veut dire c'est le sauveur. Un Messie pour une entreprise, c'est quelqu'un qui sauve une entreprise qui était en difficulté. Ben, ils ont pris cela de la Bible. Mais ça, c'est leur espérance à eux. Notre espérance, c'est du Messie qui doit venir pour diriger le monde. Et pour cela, pour que les événements du monde ne nous découragent pas, pour que les dangers par lesquels nous traversons, ou les coups durs que nous subissons, pour que cela ne nous décourage pas, nous devons toujours avoir du zèle. Nous avons vu l'Église est passée par des situations compliquées tout au long des âges. Il y a eu des persécutions, il y a eu toutes sortes de choses, des moqueries et tout cela. L'Église, à la fin, à la Odyssée, l'Église n'avait plus le même zèle qu'elle avait à l'âge d'Éphèse. À tel point que le Seigneur, parlant à l'Église, il parle à l'âge de la Odyssée, il dit à la Odyssée, aie du zèle. Ça va? Le Seigneur lui-même demande à la Odyssée d'avoir du zèle. Le problème de la Odyssée, il n'est pas zélé, il n'est ni zélé d'un côté ni de l'autre. Il n'est ni froid ni bouillant. Il est tiède. Et Dieu veut que nous soyons, que nous montrions nos couleurs. Soit nous sommes froids, soit nous sommes chauds. Bouillants. Pas seulement chauds, mais bouillants. Et donc, et toujours, et nous tous, nous devons manifester ce même zèle, le même qu'au début. Et l'apôtre Paul compare le zèle à des chaussures de combat. Qu'est-ce que les chaussures ont de particulier? C'est que quand on les porte, plus on les utilise, plus elles s'usent. Ça va? Parfois, on doit aller chez le cordonnier pour qu'il rajoute les talons. Et c'est la même chose que le zèle. Le zèle, plus on marche, plus il peut être entamé. Mais le miracle de Dieu fait que quand vous avez un grand désert à traverser, eh bien, Dieu conserve vos chaussures. On va y arriver. Paul dit donc dans Éphésiens chapitre 6, et ce zèle, pour que ce zèle soit intact, pour qu'il ne s'use pas du début à la fin, Dieu s'arrange pour que ce zèle, quand Dieu dit « aie du zèle », on l'a dit ici dimanche, il n'y a pas de paquet de zèle là-bas en haut que Dieu va venir mettre dans nos cœurs. Amen. Dieu sait comment, quand il nous dit « aie du zèle », il sait que les siens savent ce qu'il faut faire pour avoir du zèle. Comment obtient-on le zèle? Éphésiens chapitre 6, verset Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Si l'apôtre, le Saint-Esprit, l'apôtre, nous exhorte à nous revêtir des armes, c'est parce que nous sommes en guerre. Nous sommes au combat. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous devons être armés. Ne nous promenons pas désarmés dans la rue. Ne vivons pas désarmés dans nos maisons. Nos ennemis à nous, ce ne sont pas les Russes qui s'entassent devant la frontière ukrainienne. Nos ennemis ne sont pas faits de chair et de sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, ces choses qui vous dominent. Il y a de ces colères mauvaises qui vous dominent, qui peuvent vous pousser à faire des actes que vous regretteriez plus tard. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, n'en oubliez aucune, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pour tenir le tout en place, ne prenez rien d'autre que la vérité. Si vous prenez autre chose, eh bien, tout va se désintégrer. Ça va tomber dans tous les sens. Frère Branham dit que la ceinture, c'est ce qui tient tout en place. Donc, si vous allez autrement que par la vérité, eh bien, tout ce dont vous avez bâti risque de dégringoler. Vous voyez? Donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse. La cuirasse, c'est le bouclier. Une espèce de pare-balles. Le monde a des pare-balles. Quand vous prenez les pare-balles naturelles, n'est-ce pas, vous avez même difficile à fermer votre veste. Mais le pare-balles divin, il n'y a pas de problème, votre veste, vous la porterez très bien. Amen. L'ennemi peut tirer à balles réelles. Mais vous avez cette cuirasse. Cuirasse de la justice. Pas la justice qui vient de la loi, mais la justice que l'on obtient par la foi en Christ. Cette justice-là. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Où est-ce que je peux me procurer ce zèle? Eh bien, que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire, plus j'écoute l'évangile de paix, plus j'ai du zèle. Maintenant, celui qui se détourne de l'évangile, eh bien, il va connaître des hauts et des bas. Amen. Et il va connaître des problèmes. Alors, cet évangile qui nous donne le zèle, ben, on a donc intérêt à l'écouter. Qu'importe la situation dans laquelle on se trouve, qu'importe le désert à traverser, vous savez, le désert que les enfants d'Israël ont dû traverser, quand ils ont quitté l'Égypte, Moïse écrit dans Deutéronome, Dieu dit aux enfants d'Israël que c'est un grand désert. Dites amen à ça. Il est grand. Ce n'est pas un petit désert. Alors, qu'on arrête de geindre, n'est-ce pas? Se dire, mais jusqu'à quand je serai éprouvé? Jusqu'à quand je traverserai ce désert? Eh bien, jusqu'à quand Dieu jugera nécessaire. Car c'est lui qui vous conduit. Dans Deutéronome 29, il dit ceci. Ah, d'accord. Il dit, 29, verset 5, il dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. C'est là notre confiance. C'est Dieu lui-même qui nous conduit. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Amen. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied pendant 40 ans. Vous avez marché avec les mêmes chaussures. Vous savez, quand j'étais encore jeune, parce que je ne suis plus de toute première jeunesse, je dis ça pour, n'est-ce pas, taquiner mon petit frère qui est là-bas derrière, j'étais mince. J'avais un pull que j'avais il y a plusieurs années. Plus de 30, il y a plus de dans les années 80, c'est pour vous dire. Et ce pull, ben, pendant que j'ai commencé à grossir, hein, ce pull commençait à devenir petit. J'ai dit à mon petit frère, prends ce pull. Et il a pris le pull. Et vendredi, je le vois avec le pull est presque tout intact. Moi, je lui ai dit, mais comment tu as fait avec ce pull? Pendant presque 40 ans. Alors il rigole. Moi, je dis, ben, donc, ça arrive que vous pouvez faire 40 ans avec des vêtements qui ne s'usent pas. Oui. Et il me rappelle encore, il me dit, mais tu sais, j'avais encore, il avait reçu, je ne sais plus quoi, pas de moi, mais qu'il avait reçu quelque chose en 88 et il l'avait toujours. Moi, je dis, mais ça. C'est plus âgé que Dina. Amen. Ouais. Hein, pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit, c'est mon frère Nestor. Ouais. Donc, il dit, tes vêtements ne se sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Et vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, pendant 40 ans. Ils n'ont pas connu ça. Alors, quand on vous demande le jour du jeûne de ne pas sombrer dans vos penchants, pendant quelques jours, ce n'est vraiment pas un problème. Donc, ce désert, en plus, dans Deutéronome 8, verset 15, n'oublie jamais ça. L'Éternel t'a fait marcher dans ce grand. Ce désert est grand. Dans la prédication regardant en l'invisible, Frère Branham parle d'une jeune fille à l'époque qui avait des problèmes, qui était malade, un cancer, 9 ans sans mettre le nez dehors. Vous parlez d'un grand désert. 9 ans sans se lever, dépendante à cause de la maladie. Et Dieu l'a guérie. Un grand désert qui paraissait interminable. Ses parents étaient, le papa, je crois, était diacre dans une église dénominationnelle, qui ne voulait pas entendre parler du message. Mais c'était des gens qui priaient. Ils ont supplié Dieu. ne voulait même pas voir Frère Branham, il le considérait comme un voyou. Mais Dieu a été bon envers eux. Et Dieu leur a envoyé, c'est-à-dire celui qu'eux, ils appelaient voyou. Et leur fille a été guérie. Et Dieu l'a guérie au moment où le papa était parti traire les vaches. Lisez la prédication, elle n'est pas longue. Et il revenait avec le lait. Il entend quelqu'un jouer du piano. Il entre dans la maison, il voit que c'est sa fille. Il a lâché le lait. Ce grand désert. La femme à la synagogue, son désert, 13 ans. 13 ans. Que Satan tenait courbé. L'homme à la piscine de Bethesda, 38 ans. Qu'il était là. Malade depuis 38 ans. C'est presque 40 ans. Le Seigneur avait dans les 33 ans. Ce grand désert, il est grand, il est interminable. Long à traverser. Le fiston à la maison avait demandé à Dieu quelque chose. Et Dieu lui a parlé en songe. Il lui dit, sois patient. Quand il m'a dit ça, Dieu lui a dit, sois patient. Quand Dieu vous dit, sois patient, ce n'est pas une patience de 10 minutes, hein, de 20 minutes. Hein. Il dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Abraham a attendu 25 ans. Alors moi, quand Dieu me demande, sois patient, quand je pense à Abraham, je dis, Seigneur, quand même pas 25 ans. S'il te plaît, Seigneur. Oui. Le désert, il est grand. Et il n'est pas du tout accueillant. Il est affreux. Vous rencontrez toutes sortes de méchancetés. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert? Et en plus, le désert n'est pas inhabité. Il y a des serpents brûlants et des scorpions. Vous savez, les serpents brûlants, ils vous mordent, vous en mourrez. Les scorpions, quand ils vous piquent, vous êtes tourmentés. Vous ne mourrez pas, vous êtes tourmentés. Dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. C'est sûr que quand, après avoir traversé ce grand et affreux désert, après avoir connu les serpents brûlants et les scorpions, ils ont murmuré en chemin, ceux de la première génération. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, plus de zèle pour la parole. Ils ne s'en tenaient plus qu'à ce que leurs yeux voyaient. Nous étions à leurs yeux et aux leurs, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il n'y en avait que deux qui avaient le zèle. La deuxième génération, ok. Vous voyez ça? Ceux-là, leurs ailes étaient restées intactes. Pour ceux qui sont arrivés. Et ils étaient tellement zélés que quand Dieu leur a dit, par Josué, d'envoyer deux espions sont partis, sont arrivés chez Rahab. Dieu leur montre qu'il est Dieu. Dieu leur parle par Rahab. Je sais que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Il est Dieu dans les cieux, Dieu sur la terre, il est Dieu partout. Tous les habitants ici tremblent. Pourquoi est-ce que Rahab leur a dit ça? C'est Dieu qui l'a poussé à le dire. Comme ça, ils sont à nouveau encouragés. Nous sommes sur la bonne voie. C'est Dieu qui nous conduit. Et ils ont le zèle. Dieu leur dit, prenez Jéricho, ils n'hésitent pas. Ils prennent Jéricho. Avant d'aller prendre Jéricho, Dieu leur dit, tournez une fois, chantez, allez-vous, ils tournent une fois, ils chantent, et puis ils jouent de la trompette, et puis ils vont se reposer. Dieu nous a déjà donné Jéricho. Rechantez une deuxième fois, personne ne se fatigue. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Commençons par dimanche. Ce qui fait, ils arrivent samedi. Le jour, le septième jour, là, Dieu dit, la ville, elle est là. Prenez-en possession. Et quand Dieu leur dit, prenez-en possession, ils poussent des cris. Lorsqu'ils poussent des cris, les murs de Jéricho flanchent. Vous parlez d'un Dieu vivant. Quand Dieu va vous dire poussez des cris, les murs des diabètes, les murs des hypertensions, les murs des cancers, ces murs-là vont tous s'écrouler. Poussez seulement des cris. Gloire à Dieu. Maintenant, ils ont été installés en terre promise. Nous savons ce qui est arrivé. Dieu leur dit, exterminez tous ces peuples qui sont là. Ils en exterminent une partie, une bonne partie. On est vite content, hein? Ah frère, ça va mieux. Ça va mieux, gloire à Dieu. Attendez. Dites à Dieu que Dieu veut qu'ils partent tous. Ne vous contentez pas d'en garder. Parce que ceux que vous gardez peuvent être votre piège. Parce que lorsque vous en gardez un petit peu, vous savez, c'est ce petit peu-là qui va vous dire après, tiens, tu es sûr que tu es vraiment guéri. Tu vois, tu as encore mal là, hein? Faites tout disparaître. Ayez foi en Dieu. Et ils ont gardé quelques peuples, des nations. Dieu dit, je vais les laisser là. Puisque vous les avez laissés là, ils seront pour vous un piège. Et ils ont abandonné l'Éternel. Et quand ils ont abandonné l'Éternel, eh bien, les Madianites, ce peuple-là qui était alentour, les Philistins et tout ce que vous voulez, ils venaient le rendre. La vie dure. Ils venaient leur chercher misère. Pendant le temps, excusez-moi, pendant le temps des juges. Et puis finalement, vous savez, pendant le temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Finalement, ils ont demandé un roi. Samuel, c'était au temps des juges, hein, le prophète Samuel. Et c'est pendant le ministère de Samuel qu'ils ont demandé un roi. Ils ont rejeté Dieu. Dieu leur a donné des rois. les rois humains. Et ça a marché. Un peu avec Saül, ça a capoté. Et puis David est arrivé. Ça a été. Après David, il y a eu Salomon. Et voilà qu'ils ont eu un royaume glorieux. Le royaume glorieux du temps de Salomon, quand vous lisez comment ce royaume fonctionnait, ça fait rêver. La reine du Midi a entendu parler de ça. Elle est allée jusque là-bas. Elle n'a pas voulu envoyer des émissaires, aller voir si c'est vraiment. Non, non. Elle a tenu à y aller elle-même. Et moi, quand je lis comment était ce royaume, avec les scorpions qui m'ont piqué ici, dans cet affreux désert, eh, ça fait rêver. Vous vous imaginez un royaume où l'argent est aussi commun que les pierres? Vous imaginez ça? Et c'est tellement commun. Ici, lorsque vous voyez un billet de 100 euros, 5, même 50 euros par terre, vous allez vite le ramasser. Mais du temps de Salomon, il se fatiguait d'en ramasser. C'était tellement commun. Ah, encore un billet de 500 euros là. Qu'est-ce que je vais en faire? Et ben. Oui, ça. Et la facture qui vous arrive. Oh, il y a encore quelques cailloux dans les jardins. Mais oui, bien sûr, il y a quelques cailloux dans les jardins. Et vous payez vos factures. Moi, ce royaume-là, je dis, Seigneur, s'il te plaît, établis-le-nous. Des maladies. Oh, il n'y a plus de calamité. Vous êtes en repos de toutes parts. Vous voyez, votre frère arrivé ou bien votre téléphone sonne. Vous n'avez pas peur de décrocher. Qu'on vous téléphone tôt le matin ou tard le soir, vous n'avez pas peur de décrocher. Du temps de Salomon. Tellement c'était très bien comme au royaume. Aujourd'hui, quand on vous téléphone tôt le matin, vous regardez qui vous téléphone. Oh là là, pourquoi est-ce qu'on me téléphone à cette heure-ci? Certains, même par superstition, disent non, pas avant de. Pas avant de. Mais vous êtes en paix. Et puis, Salomon, c'est par Dieu, c'est Dieu qui l'avait établi, selon la promesse qu'il avait faite à David. Et il avait juré par lui-même, fidèle à ses alliances. Quand ils ont subi tous les revers, après Salomon, parce que le zèle de Salomon s'est dissipé. Salomon était très zélé pour Dieu quand il a commencé. Salomon a bâti le temple. Il s'est donné corps et âme pour bâtir le temple. Vous et moi, l'apôtre dit, hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu vient habiter. Eh bien, nous pouvions avoir du zèle au début pour bâtir le temple du Dieu vivant. Ou les objets lourds du navire, hein? Nous les jetons par-dessus bord. Les agrès, ce qui nous empêche de bien marcher. Tellement on est zélé. Avec le zèle du début de ceux qui ont reçu le message, vous savez, il y a des télévisions qui ont sauté par la fenêtre. Qui sont passées par la fenêtre. Les gens de la voirie, eh ben, Ils ont eu du boulot. Ou ceux qui ont voulu ramasser des télévisions en ont ramassé. Des télévisions qui fonctionnaient. À l'époque, avoir une télé à la maison, c'était quand même un luxe. Tellement le frère avait cogné sur la télé, avec raison. Hein? Et puis, on a avancé, on a avancé, les scorpions aidant et les serpents brûlants aidant, le zèle a commencé tout doucement à se dissiper. Les mêmes qui ont jeté les télévisions sont partis en racheter. Et il y a culte. On préfère rester à la maison pour regarder. Comment ça s'intitulait encore, frère Albert? Nous aimons Suzy. Nous aimons Suzy. Ou c'est un peu l'équivalent des feux de l'amour. Ouais, le zèle s'en est allé. Ah, faut pas exagérer. Hein? D'ailleurs, on commence à se trouver des excuses. D'ailleurs, le prophète une fois a donné un exemple. Il avait vu quelque chose à la télé. Oh, le problème n'est pas là. Le problème est celui. Il y en a d'autres pour être sûr, poser la question au serviteur de Dieu. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une télévision? Moi, j'aime bien la réponse que Frère Franck avait donnée une fois. Ça m'a été rapporté. Je n'ai jamais été à Créfeld, moi. Quelqu'un est allé a demandé au Frère Franck. Je crois qu'il voulait avoir sa télé chez lui. Mais pour être sûr, il est parti demander au Frère. Frère, est-ce qu'un chrétien peut avoir une télévision chez lui? Le frère lui a répondu, Frère, dis-moi un peu, la télévision qui est là, est-ce que si tu l'ouvres, est-ce qu'il y a des démons dedans? L'autre a dit non. Il dit, ah, les démons ne sont pas dans la télé. Les démons sont en toi. Amen. Ah ouais. Gloire à Dieu. Le zèle s'en est allé. Il y en a qui ont dit au début, moi maintenant la télé, je vois ça comme de la boue. Eh bien, quelques années plus tard, ça, frère, c'est pour les enfants. Quel pour les enfants? Amen. Quand les enfants sont là et. Laisse-nous suivre les informations. Après les informations, c'est pas mauvais de suivre les informations. Après les informations, ah, il y a un bon reportage là. Ah, il y a ceci, il y a un bon débat politique là. Et il y a un bon ceci là-bas. Et ta Bible, la Bible, on verra ça après. On verra la Bible après. Après quand? Dimanche. Bon, et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Salomon, il était très zélé pour Dieu. Mais Dieu avait dit, hein, Dieu est sage dans sa parole. Dieu leur avait dit, quand vous arriverez dans le pays, vous prendrez possession, n'épousez pas leurs filles. Ou les nations alentour, n'allez pas épouser les filles de là-bas, parce qu'elles vous détourneront de moi. Salomon dit jamais. Moi, me détourner du Dieu de mon père, David, jamais. Comme Pierre qui dit, moi, te nier, toi, Seigneur, jamais. Où tu iras, même en prison, j'irai avec toi. 1 roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, ils n'étaient pas tribalistes, des Éthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Quand Dieu dit certainement, c'est certain. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Point. Et non pas par l'amour de Dieu, non, par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes. Hein? Mon frère Benoît hoche la tête. Et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, il était vieux, hein? Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et pourtant, David, c'était aussi quelqu'un dans le domaine. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. C'était la divinité de Jézabel, hein, les Astartés. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu, donc pour adorer, pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, leurs prières donc, et des sacrifices à leur Dieu. Cela a entraîné quoi? Division du royaume. Cela a entraîné quoi? Dispersion des enfants d'Israël et des Juifs. Cela a entraîné quoi? Captivité. Esclavage. Et comme dit Néhémie dans sa prière, nous voici esclaves. Alors maintenant, sortez de l'esclavage. Quand déjà ils étaient en Égypte, ils n'arrivaient pas à en sortir. Dieu a dû se souvenir de la promesse faite à Abraham pour les sortir de là. Après l'Égypte, Babylone, Assyrie, là où ils étaient captifs, eh bien, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Quand les Babyloniens lâchent l'affaire, les Médo-Perses prennent le relais. Quand les Médo-Perses affaiblissent, lâchent l'affaire, les Grecs arrivent, ils prennent le relais. Quand les Grecs, finalement, ils se font battre par les Romains, les Grecs, maintenant, ce sont les Romains qui les prennent. Jusqu'aujourd'hui, ils sont captifs des Romains. Et vous et moi, pareil. Et les Romains viennent avec toutes sortes d'histoires. Hein. Les taxes, les machins, tout ce qui vous rend la vie difficile aujourd'hui, les Romains. Ouais. L'Empire romain est tombé, c'est vrai, mais il en est la bête que l'on croyait morte, n'est-ce pas? C'est relevé. Alors, on ne peut pas y échapper. Mais est-ce la fin? Israël, son temps, nous l'avons lu dans Jérémie. L'espérance qui leur restait, c'était l'Éternel. L'Éternel était leur espérance. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel reste leur espérance. Et vous et moi, c'est pareil. Jésus dit, celui qui pratique le péché est esclave du péché. Ce péché que je commets tout le temps, je ne veux pas le commettre. Mais il y a comme une force en moi qui m'oblige à le commettre. Alors, n'ai-je plus d'espérance aussi? Paul dit à Timothée que j'en ai une. La seule espérance que les Juifs ont de retrouver la gloire perdue du temps de Salomon, depuis après Salomon, la seule espérance qu'ils ont de récupérer, de retrouver cette gloire, c'est dans le fils de David promis, qui est le Christ. Dites amen à ça. Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Donc, c'est la seule espérance qu'ils ont. Non seulement eux, mais nous également. C'est la seule espérance que nous avons pour nous en sortir. Il reste l'espérance non pas seulement d'Israël, car quand on voit aujourd'hui les dirigeants du monde actuel, que ce soit le monde politique, que ce soit le monde scientifique, que ce soit le monde religieux, eh ben, le monde scientifique, nous voyons, il est impuissant de nous sortir de cette histoire. Le monde scientifique est impuissant devant les calamités. Lorsqu'un volcan se réveille comme ça à l'improviste, ils vous disent eux-mêmes, on ne pouvait pas prévoir. Impuissant devant les catastrophes, les pandémies, le monde religieux, lorsqu'on voit comment ça marche, eh bien, il y a de quoi perdre espoir, mais non, il nous reste une espérance. Et c'est une espérance vivante en plus. Paul dit à Timothée, Jésus-Christ est notre espérance. Et c'est Dieu, l'Éternel, l'espérance d'Israël, qui nous l'envoie. Il est l'envoyé de l'Éternel. Ça va? Lorsque nous sommes captifs, donc impuissants devant les maladies, impuissants devant toutes ces choses, il y a des gens qui ont le cœur troublé. Il y a des gens qui ont l'esprit brisé. Il y a des gens qui... Dieu nous envoie quelqu'un. Luc va chapitre 4, il entre dans la synagogue, il dit ceci, il va lire dans Ésaïe 61, je crois, verset 16, Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, le Seigneur. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous qui êtes pauvres, le Seigneur a envoyé quelqu'un, il a oint quelqu'un pour vous annoncer une bonne nouvelle. » Quelle est la bonne nouvelle ? À quelqu'un qui est pauvre, c'est que maintenant, tu es riche. C'est que maintenant, tu ne manques de rien. L'Éternel est mon berger. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année du Seigneur, une année de grâce du Seigneur. Point. Il s'arrête là. Et pourtant, on lui a remis le livre d'Ésaïe. Si vous allez dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir qu'il n'a pas lu la partie qui suit juste l'année de grâce du Seigneur. Il n'a pas lu une année de vengeance. Quand il est venu, le loin là, le Christ, pour proclamer une année de grâce. L'Éternel Mawin, c'est le titre. Le M de Mawin, c'est un grand M parce que c'est Christ qui parle. Fondamentalement, si je peux dire, à la base, comme on aime bien dire, l'onction, depuis l'Ancien Testament, l'onction reste un acte divin. C'est Dieu qui oint. Il peut prendre des bras, mais c'est Dieu qui oint. Samuel dit à Saül ceci. 1 Samuel 10. Samuel prit, verset premier, une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» C'est Dieu qui oint. Il y avait plein de passages. Je savais qu'on allait être pris par le temps. Je n'ai pas tout transmis. Mais c'est Dieu qui oint. Maintenant, c'est l'espérance que l'affligé a aujourd'hui. Celui qui est affligé trouve son espérance en Jésus-Christ. Parce que lorsque vous êtes affligé, vous allez enterrer les vôtres. Vous avez cette espérance que donne l'Évangile. L'Évangile va... Comment dirais-je? L'Évangile va renouveler votre zèle, si je peux dire ainsi. Va vous faire maintenir votre zèle. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, vous voyez que tous ceux qui étaient affligés, du temps où le Seigneur est venu, marchant sur la terre, nous voyons qu'il était la réponse à l'espérance qu'ils avaient. Quand ils étaient tous là, comme Bartimée qui était aveugle. Il savait que le Christ allait venir. Et que le Christ, lorsqu'il viendrait, il recouvrerait la vue des aveugles. C'est pourquoi pour Bartimée, l'espérance qu'il avait, ce n'était pas de gagner au loto. L'espérance de Bartimée, c'était que Christ vienne, qu'il recouvre la vue. C'était son espérance. Le fils de David. Il était l'espérance de l'affligé. C'est la seule personne qui pouvait arrêter un cortège funèbre où une veuve allait laisser son fils unique au cimetière. Et tout le monde était là pour l'aider à pleurer son fils. Tout le monde était là pour essayer de lui faire de la consoler, de lui faire accepter cette décision. Eh bien, lui, il n'était pas là pour ça. Lui, il était là pour carrément arrêter le cortège. Vous allez où? Au cimetière. Stop. Ouvrez le cercueil. Oh! Luc chapitre 7. Et si vous vous souvenez de la prédication du jour, de l'action des grâces, il devait passer par là. Verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville Naïn. Qu'est-il allé faire? Il y avait quelque chose à faire là-bas. pour ceux dont il est l'espérance. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Pourquoi va-t-il à Naïn? Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on était en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit. Oh, la mort a trouvé son maître. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Il est le seul qui peut aller dans une maison brisée par la douleur. Parce que une fille unique vient de les quitter. Et arrivé là-bas, rappeler la fille à l'existence, à la vie. Luc chapitre 8. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, ne perds pas ton espérance. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Que tous les incrédules restent dehors. Nous nous espérons contre toute espérance. Quand Daniel est allé instruire Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient en captivité. Hein. N'oubliez pas ça. Ils étaient en captivité. Où tout espoir pouvait leur être enlevé. D'ailleurs, quand ils étaient en captivité là-bas à Babylone, au bord des rives, des rivières de Babylone, on leur chantait un peu les louanges. On n'a plus d'espérance. Pourquoi voulez-vous que nous chantions les louanges de Sion sur une étrangère? Mais ce qui fait que Daniel ne s'est pas occupé de ses compatriotes-là. Il est allé voir ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, bien-aimé, il y a un problème. Le roi ici s'est fâché. Tous les sages de Babylone, ils ont commencé à trembler, à pleurer, parce que le roi a dit, si vous ne trouvez, je vous donne autant d'heures, si vous ne trouvez pas, tous, fournaise. Mais au roi, dis-nous seulement le rêve, et nous te donnons, vous gagnez, n'essayez pas de gagner du temps. Si vous ne m'apportez pas l'explication, c'est la fournaise. Oh, la nouvelle arrive là-bas, chez les juifs déportés. Ils se mettent tous dans la cendre, dans le sac. Il commence à pleurer, voilà, il veut notre mort. Amen. Daniel regarde, il va chez ses frères, c'est les croyants. Frère, il y a un problème là. Voici ce que le roi a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Notre Dieu entend les prières. Nous sommes en captivité. Même en captivité, il entend les prières. Mettons-nous à genoux. Ils se sont mis à genoux. Et Dieu, ce qu'il fait, il envoie la réponse à Daniel. Daniel dit à ses trois compagnons, j'ai la réponse. Et les autres qui, gloire à Dieu. Oui, monsieur. Alors Jésus ici, il dit, les incrédules, hein, dehors. Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient. Oh là là. et se lamentait. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Oui. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Bien, mais moi, après ça, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Que Christ soit capable de le faire, ça ne m'étonne pas. Ce sont des choses qu'il fait. Un jour, vous qui mettez votre espérance dans l'argent. Après, j'avais une affaire, une coupe. Très bien, va faire ta coupe. L'argent ne peut pas être une espérance fiable. Une femme, toutes les économies qu'elle avait, l'argent qu'elle avait mis de côté, elle a consulté les meilleurs médecins qui soient. Les médecins ont pris l'argent. Ils ont mis dans leur poche. Professeur untel, professeur untel. Parce qu'on ne va pas dire docteur deux fois, docteur, docteur. Eux, ce sont des professeurs qui présentent des thèses. Verset 43, toujours Luc 8. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Mais elle a gardé l'espérance que Christ pouvait le faire. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, voilà où je veux placer mon espérance. Il pouvait se mettre debout sur une barque secouée par une tempête. Sur chaque vague, comme dit le frère, 1000 démons de l'enfer ont juré de faire couler la barque une fois qu'on l'a. Lui qui a eu la mauvaise idée de se faire homme avec ses disciples, tous ces prédicateurs-là. Nous allons couler cette barque. Lui, il dormait. Les disciples sont venus, Seigneur, sauve, nous coulons. Il s'est levé, il a regardé. Il est venu, il a mis un pied sur la poupe. Il a regardé la mer. Il a regardé le vent. Vous pouvez regarder le vent, vous. Lui, il peut le regarder. Il dit au vent, vent, calme-toi. Mer, tais-toi. Et la mer, entendu. Mettez-vous un jour au bord de la mer. Essayez un peu de dire quelque chose, ce que vous voulez, à la mer. Et même. J'ai essayé ça une fois, en Bretagne. Je me suis mis là. J'ai voulu dire quelque chose à la mer. J'ai dit, Dieu est grand. Quand vous voyez toute cette masse d'eau, moi j'ai dit, mon Seigneur, parle à cette masse d'eau. Ça. De l'eau partout, aussi loin que vos yeux peuvent regarder. De l'eau, rien que de l'eau. Si cette eau-là se fâche, eh bien lui, il se lève, il parle doucement, sans crier. Vous savez, mon frère François, le frère ici, il a un démon, chasse le démon. Le frère François va commencer à crier, Satan! Mais non! Et lui, il ne criait pas. Amen. Les gens croient que quand ils crient, Satan va les entendre. Et quand ils ne crient pas, que Satan ne va pas les entendre. Ils en perdent même la voix. Satan, je t'ordonne! Mais un homme, c'est pas mon espérance du tout. Mais Christ, oui. Christ, il dit, Christ, il pose la question au démon. Le démon a voulu l'impressionner. Le Seigneur pose la question, vous êtes combien? Comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Ah, tu t'appelles Légion. Sors. Et il s'en est allé. Et c'est ainsi qu'il chasse les démons. C'est arrivé depuis quand? Ça, c'est depuis sa naissance. Un aveugle né qui n'a jamais vu la lumière du soleil. Qui ne sait pas ce que c'est que le rouge ou le bleu ou le vert ou le blanc. Quand vous fermez les yeux, pendant qu'il y a la lumière ici, vous voyez que la lampe est allumée, hein? Un aveugle ne voit rien. C'est noir. Il sent qu'il est dans la lumière, il a développé certains sens, mais avec ses yeux, il ne voit rien. Vous êtes déjà posé la question qu'on vous mette un aveugle devant vous et que vous commenciez à lui expliquer c'est quoi le rouge. Pour connaître la situation de la personne. Il est né comme ça. Et nous voyons les choses selon des couleurs différentes. C'est quoi une couleur? Vous entendez des gens parler de choses que vous ne connaissez pas. Aucun homme ne peut vous aider dans cette vie. Aucune machine ne peut vous aider. Mais quelqu'un vient à la synagogue, il lit la Bible, il lit les Écritures, il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Oh, l'aveugle entend ça, il s'accroche à ça. Il va lui donner la vue et il voit cet aveugle de naissance. C'était tellement lourd que les apôtres demandent au Seigneur, comment est-ce qu'il est aveugle de naissance? Ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Comment pouvait-il pécher puis il est aveugle de naissance? Il a été aveugle avant même qu'il ne pêche. Et le Seigneur là, le Seigneur vient. Il le prend. Il prend de la boue. Il lui applique. Il voit. Gloire à Dieu. Lorsqu'il voit, le Seigneur lui dit, va chez le sacrificateur. Qui lui a montré le chemin? Dieu est merveilleux. C'est la seule personne. D'ailleurs, il le dit, l'aveugle-né. Quand on l'appelle par les conducteurs religieux, là, les pharisiens, ils essaient de minimiser le Seigneur, ils essaient de le ridiculiser. Il dit, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un donner la vue à un aveugle-né? Toi, qui dis-tu qu'il est? C'est un prophète. Vous savez, Le titre, c'est un prophète, comme la Samaritaine dit, je vois que tu es prophète. Tout ça, c'est le Christ. Parce que le Christ, c'est oint, un oint. Un Messie, c'est un oint. Comme on a dit ici il y a quelque temps, il y avait trois types d'onction. Il y avait l'onction royale, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Il y avait l'onction de prophète. Et il y avait l'onction du sacrificateur. Il y a des Christ dans la Bible, des Messies, avec petit M. Il y a des oints. Christ, Messie, oint, c'est la même chose, c'est le même terme. En langage différent. Oint, c'est du français. Messie, Machia, c'est de l'hébreu. Et Christ, c'est du grec, Christos. Ça veut dire exactement la même chose. C'est le oint. Eh bien, il y a des oints. Ces oints-là, tantôt ils sont prophètes, tantôt certains, d'autres sont sacrificateurs, d'autres sont rois. Par contre, il n'y a qu'un seul, le Christ. Et le Christ, il est en même temps roi, prophète et sacrificateur. Il a les trois. C'est le Christ. C'est lui notre espérance. Comme aujourd'hui, après avoir péché, je n'ai plus droit à accéder là-bas en haut, mon espérance, c'est lui, pour que j'arrive là-bas en haut. Père, il ne voulait pas le faire. Pardonne-lui. Dieu entend et il me pardonne. Nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est le meilleur avocat. Quand on nous montre ça parfois sous forme d'injustice ici, sur Terre. Ces gens riches qui arrivent à se payer des célébrités comme avocats. Là où vous, on vous aurait condamné à 10 ou 15 ans de prison, eux, parce qu'ils ont eu un très bon avocat, ils sont acquittés. Moi, je regarde, je dis, si avec un bon avocat humain, on peut être acquitté après avoir été coupable. Alors, un tel avocat comme Christ, moi j'ai le meilleur des avocats. Qui plus est, c'est un avocat prodéon. Amen. Je n'ai pas à le payer, c'est gratuit. L'autre avocat humain ici va vous coller une de ces factures d'honoraires. Amen. Mais lui, c'est gratuit. Je te dois combien, Seigneur? Oh, my. Tu ne lui dois rien. Non, tu lui dois le salut. C'est grâce à lui que tu es sauvé. Oh. Il pouvait se mettre debout devant une tombe de quelqu'un mort depuis 4 jours. Pourrissant, se décomposant, rongé par des vers et tout ce que vous voulez. Il est même arrivé là. Il s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer, vous pouvez s'imaginer. Ah, il pleure donc. Il n'y a plus de oh, regardez comment il aimait. Mais s'il avait été là, il aurait peut-être pu le sauver. Mais avec lui, la mort, ce n'est pas la fin. Il s'est redressé, roulé la pierre. Et s'il n'y a plus d'homme pour rouler la pierre, vous savez, le jour où lui l'a ressuscité, il n'y avait aucun homme pour rouler la pierre. Il y avait des anges qui étaient venus. Ah, un ange est un esprit, oui. Hébreu premier le dit. Un esprit, c'est pas toucher une pierre. Ah bon? Hein? Dieu, c'est vrai qu'un esprit, mais Dieu peut faire de sorte que des anges puissent manger. Mais c'est un esprit. C'est peut-être un esprit, mais Dieu leur donne un corps. Comme Frère Abraham dit, il a pris la poussière, il a soufflé. Gabriel, entre dedans. Il faut. Michael entre dedans. Yes. Il prend. Et lui-même, il step down. Yes. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Alors, aujourd'hui, nous allons chez Abraham. On va chez Abraham. Abraham dit, vous êtes des esprits, vous ne mangerez pas. Fais le veau, cuis le veau. Il a mangé le veau. Il a bu du lait. Amen. Et puis, les deux autres, après avoir bien mangé, ils partent vers Sodome. Le Seigneur leur dit, j'arrive. Il les laisse partir. Et puis, il reste avec Abraham. Il dit, Abraham, tu sais pourquoi je suis passé par ici? Abraham dit non. Il dit d'abord, un, pour te confirmer la promesse que je t'ai faite, Sarah, à la même époque, aura un fils. Vrai de vrai, Seigneur? Vrai de vrai, Abraham. Sarah dit, j'ai encore du plaisir avec moi. Pourquoi est-ce que Sarah arrive? Et ça, c'est un. Donc, pour te confirmer, tu auras un fils. Il y a un deuxièmement. Il y a un deuxièmement. Le deuxièmement, c'est quoi? J'aime bien ça. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Voilà ce que je vais faire. Il est là, ici. Il est en train de frapper à votre porte ce soir, ce matin, en ce jour. Quand on descend un cercueil d'un bien-aimé dans la tombe, il reste notre espérance. Bon, il s'est mis à pleurer devant la tombe de Lazare et devant un cimetière, dans le cimetière, là, je ne sais pas, il dit carrément. Il proclame, je suis la résurrection et la vie. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire ça? Ni Mahomet, ni Bouddha. Un jour, un musulman m'a dit, ah, mes amis musulmans, il m'a dit, quand tu lis les choses que Mahomet a dites, eh bien, quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est un homme ne pouvait pas écrire ça, c'est très bien, ne pouvait pas dire ça, c'est bien. Mais moi, j'en connais un qui n'a pas étudié non plus, qui n'a pas été dans nos écoles ici, hein, mais qui savait toutes choses et qui pouvait dire, je suis la résurrection et la vie. Et il va venir dire, celui qui croit en moi n'aimera pas. Il dit ceci aussi, je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est pour les autres. Mais pour moi-même, je suis le temple du Seigneur. Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. 3 jours. Pour ceux qui, la mort a enlevé toute espérance. Bartimée, nous en avons parlé au bord du chemin. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, vous qui êtes troublés, dites-le leur à ceux qui ont le cœur troublé, l'Éternel, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. C'est pourquoi lui, il a été oint. Il a été oint pour soulager, rassurer ceux qui ont le cœur troublé. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez. Jésus la donne. Vous qui êtes troublés, Jésus rassure. Vous êtes entrés ici découragés. La parole d'encouragement vous a été apportée. Il est là au milieu de nous. Et c'est lui que nous attendons. Il est loin pour ça. L'Esprit de l'Éternel l'a loin. Pour vous qui avez le cœur troublé. Il est le Christ. Il est le Messie. Celui que nous attendons. Vous savez, on oignait aussi les objets. Vous allez voir Jacob oindre un monument. Vous allez voir, Moïse avait reçu l'ordre de oindre le tabernacle avec les ustensiles. L'onction. On oignait les autels également. L'onction a un caractère sacré. C'est saint. L'onction, c'est quelque chose de saint. Et c'est tellement sacré, et même ce que ça représente, ce qui représente l'onction, l'onction par l'esprit, donc l'esprit. Donc l'huile d'onction avec laquelle on oignait les sacrificateurs, interdiction d'en faire de semblables. Celui qui osait en faire une composition semblable était retranché. Pas à cause de l'huile que vous avez faite, non. Pour vous montrer le caractère sacré de l'antitype de la chose. Vous pouvez lire ça dans Exode 30. On va lire, on a encore 10 minutes. On va arrêter. On continuera la fois prochaine. Exode 30, 32, verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Donc, après vous être lavé, vous avez besoin de vous oindre un peu d'huile. Ne prenez pas cette huile-là. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'onction donnait de l'autorité à la personne ointe. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il proclame que l'Éternel m'a oint pour délivrer les captifs, il avait l'autorité, il avait reçu l'autorité de libérer les captifs. Il avait reçu l'autorité d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quand il annonçait la bonne nouvelle, le témoignage d'évangélistes, c'est qu'il parlait comme ayant autorité. Quand il finit de lire là dans la synagogue, dans Luc 4, il est parti à Capernaum, verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Parler à un pauvre, ce n'est pas facile. Dire à quelqu'un, on peut même prendre la pauvreté de richesse ou d'argent. À un pauvre, lui dire, t'en fais pas, il y a des richesses qui t'attendent là-bas en haut. Il va vous regarder, il va vous dire, comme disent les hommes, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, je préfère que tu me dises tiens pour un, au lieu de me dire tu en auras deux demain. Non, je préfère prendre celui-ci. C'est pas facile de prêcher aux pauvres, de leur donner de l'espérance. C'est pour cela que c'est pour que nous puissions voir l'autorité de Christ. Que parfois, il y a des gens comme Lazare qui meurent étant pauvres. Parce que sinon, ce ne serait plus la foi. Mais gens comme Lazare, Dieu leur avait parlé déjà. Comme Paul dit, tout ce qui était comme des gains avant pour moi, aujourd'hui, je considère cela comme de la boue. Parce qu'il savait qu'il avait des richesses plus grandes encore qui l'attendaient. Ce qui signifie que Paul, lorsqu'il avait un choix à faire, entre il a été oint pour un certain travail, entre faire, soit aller à gauche, disons ça comme ça, soit aller à droite, il a choisi le chemin des méprisés. Alors que c'était un premier de classe. Alors que il était promis, comme Moïse, il était promis à un grand avenir. Il surclassait même ceux qui étaient plus âgés que lui, l'apôtre Paul. Quand il parle de lui, il dit, les autres savent comment j'étais. La tribu de Benjamin, j'étais pharisien. Mais tout ça à cause de ce que Dieu lui a montré et de ce que pour la tâche pour laquelle Dieu l'a oint, il choisissait toujours là où l'onction le conduisait. Et c'est là la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, les fils de Dieu, ce sont ceux à qui, Paul dit dans Romains 8, ceux à qui l'Esprit rend témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Et il dit que ceux qui sont fils de, enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils font des choix qui dépassent les gens. Il a refusé tel poste, comme Moïse, juste pour aller se balader avec ce peuple-là. Mais qu'est-ce que tu gagnes là? Là. Qu'est-ce que tu gagnes? Moïse, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu gagnes là? Et quand Moïse devait aller parler au peuple d'Israël, Moïse dit, ils ne vont pas m'écouter. Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé la langue, la bouche. Je te donne l'autorité d'aller leur parler. Donc quand Dieu oint quelqu'un pour une tâche, Dieu lui donne l'autorité pour aller travailler. Et quand Jésus est venu, il prêchait pas comme tous les prédicateurs. Et un prédicateur oint du Saint-Esprit ne prêche pas comme tous les autres. Il est oint du Saint-Esprit. Et il apporte les paroles qu'il faut. Et les enfants de Dieu savent faire la différence. Quand ils entendent le Seigneur prêcher, ils reconnaissent que c'est le Seigneur qui prêche. Alors, nous allons lire un dernier passage, Jean chapitre 7. Et puis, nous couperons. Nous irons. Nous continuerons la semaine prochaine. Jean chapitre 7, verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et ils disaient, le Christ, donc le Messie, le roi, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. C'est bien, hein? Les huissiers sont allés pour le saisir. On va, les huissiers se disent, allez, on va le prendre en flagrant délit sur le fait pendant qu'il prêche. Ils viennent écouter. C'était les huissiers des pharisiens, hein, des principaux sacrificateurs, je vous assure. Les caïphes, les ânes, un juif, quand ça vous prêche la parole. Mais c'est merveilleux. Et ça prêchait certainement très bien. Alors ils ont dit, ils ont pris les huissiers, ils n'ont pas voulu prendre n'importe qui dans la foule, aller un peu, non, non. Ils ont pris leurs huissiers à eux. Et ils y sont allés. Ils sont allés, ils se sont installés, le Seigneur s'est mis à prêcher. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, regardez dans la foule. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ, c'est lui. » Donc, prophète, le oint, n'est-ce pas? Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» Là, ce sont ceux qui doutent. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Ben, il est né à Bethléem. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Les huissiers là, ils pouvaient l'arrêter pour avoir causé des troubles, des divisions parmi les gens. Ils ne l'ont pas arrêté. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Mais personne ne mit la main sur lui. Ils se sont regardés, les frères, là, les huissiers. Ils retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Où est-il? Et ceux-ci leur dirent, donc les principaux sacrificateurs, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On vous a bien dit de nous l'amener. Les huissiers répondirent, écoute, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a jamais entendu ça. Les pharisiens leur répliquèrent, hey, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou de pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème se lève et dit, « Écoutez, mes frères, moi je suis parti l'écouter la nuit. » Ah bon, tu étais parti la nuit? Il dit, oui, mais je n'ai pas osé vous le dire, mais je suis parti l'écouter la nuit. Je vous assure, quand il a commencé à me prêcher, c'est différent de ce que nous prêchons. Hein. Il m'a même réprimandé. Il m'a même dit, tu es le docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Ah bon? Il t'a prêché quoi? Il m'a dit, hein, il faut naître de nouveau. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire ça, il faut naître de nouveau? Il faut naître d'eau et d'esprit. Explique tout ça. Tiens. Vous êtes docteur en Israël et vous ne connaissez pas ces choses. Amen. Nicodème dit, il dit, qui était venu là de nuit vers Jésus, qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Vous voyez ça? L'Esprit de l'Éternel l'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si quelqu'un a le cœur brisé ce matin, nous allons prier pour lui. Il n'y a pas de remède terrestre pour un cœur brisé. Mais Jésus a le remède. L'Esprit de l'Éternel l'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Celui qui est esclave du péché, sa seule espérance reste Christ. Nous allons prier pour lui. Il est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. S'il y a des aveugles, Christ reste leur espérance. Nous allons prier pour eux. Pour envoyer libres les opprimés. Ceux qui sont opprimés, nous allons prier pour eux. Ce que nous venons de lire là, dans Luc 4, c'est la proclamation du jubilé. Vous êtes libres. L'Esprit de l'Éternel l'a oint pour nous annoncer une bonne nouvelle. Que les personnes pour lesquelles nous prions, il a le remède. Et qu'il a entendu nos prières. Qu'il est plus que capable de les guérir. Amen. L'Esprit de l'Éternel l'a oint pour ça. Lui-même, il nous a envoyés pour que nous puissions proclamer cela. Même ce que le monde dit, que ce n'est pas inspiré. Marc 16. Si, avec des paroles qui ne sont pas inspirées, des malades sont guéris, alors quand c'est inspiré, qu'est-ce que ça donne? Nous allons prier pour tous les cas que nous avons évoqués. Nous allons prier pour la sœur Isabelle. Nous allons prier pour les enfants nécessiteux. Nous allons prier pour tous les nôtres, frère Corneille. Les diabétiques. Les hypertendus. Pour qu'ils puissent avoir le confort physique nécessaire afin de louer Dieu et de le servir. On ne va pas trop lui demander au Seigneur, mais ne fût-ce que si nous marchons ici, nous ne voulons plus rester sur la terre en gémissant, en pleurant. Nous voulons être sur la terre, le louant, lui rendant gloire et grâce. Prions le Seigneur. Notre Père céleste, souverain de l'univers, nous venons à toi ce matin Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, sur nos mérites, ni sur des vertus que nous aurions. Pendant que nous te présentons nos supplications. Puisses-tu, selon ta promesse, répandre le Saint-Esprit sur nous pendant que nous invoquons ton Saint Nom. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous n'avons aucun mérite à faire prévaloir. Nous n'avons pas de ressources ni de puissance, disait Pierre, ni même notre piété ne vaut rien. Devant toi, il n'y a pas de célébrité. Devant toi, il n'y a pas d'éminent professeur. Devant toi, les sages de ce monde sont des insensés, sont dépourvus de savoir. Et d'ailleurs, leurs jours sont comptés. Quant à toi, qui peut compter tes jours? Tu es l'Éternel. Tu es le Dieu d'éternité. Et par ta grâce, nous sommes aujourd'hui tes enfants que tu as adoptés en Jésus-Christ, que tu as acquis au prix fort, au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, avec lesquels tu as conclu une nouvelle alliance. Ce jour-là, le Seigneur a donné la coupe de vin à ses disciples pour qu'ils boivent. Et il a dit que ça, c'était la coupe, ça représentait la coupe de sang de l'alliance nouvelle qui venait d'être conclue. Dans cette alliance, nous trouvons des meilleures promesses, des promesses inconditionnelles, où tu as dit que tu nous exaucerais sans que nous, en contrepartie, nous fassions quoi que ce soit, parce que nous avons toujours failli en contrepartie. Aussi, nous voulons te demander pardon pour toutes nos faillites et nous plaçons notre confiance en toi. Il est heureux celui qui se confie en toi. La question est posée, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Par ta grâce, tu nous as ouvert les yeux. Nous avons reconnu ce bras merveilleux. Il s'est présenté comme une faible plante. Il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Il a été meurtri pour notre guérison. C'est pourquoi tous ces cas de maladie, nous croyons que ta servante est guéri par tes meurtrissures. Nous croyons que ton serviteur est guéri par tes meurtrissures. Que tes meurtrissures ont donné la santé à tes enfants, à ceux qui ont placé toute leur confiance en toi. Oh Dieu, tu as fait le corps humain quelque chose de tellement merveilleux que lorsque il fonctionne normalement. Les lois qui régissent la physiologie, comme ils disent, le fonctionnement, ce sont des lois parfaites. Mais quand ça se dérègle, on trouve tantôt trop de sucre, tantôt moins de sucre dans le sang. Tantôt, on trouve une pression élevée, tantôt une pression basse. Des têtes qui font mal. Des cellules qui s'emballent et qui provoquent des douleurs partout dans le corps. Tout cela à cause du dérèglement. Aucun homme n'a la capacité de régler cela comme il se doit. Le corps qui fonctionne normalement est capable de produire lui-même en bonne quantité l'insuline qu'il a besoin. Et le corps donne juste ce qu'il faut. S'il y en a trop, c'est régulé par d'autres hormones qui consomment le sucre en trop. Mais lorsque c'est déréglé, nous sommes obligés de prendre ces produits de synthèse qui nous rendent captifs aux hôpitaux, les insuffisants rénaux. Alors que quand le rein fonctionnait normalement, notre frère se portait bien. Maintenant, il doit peut-être subir des dialyses, une vie contraignante. Tout cela pour que tes enfants ne puissent pas te louer, ne puissent pas te rendre la gloire qui te revient. Mais tu es Dieu, tu es riche en compassion. Tes compassions sont immenses, disait David. Aussi, ô Dieu. Tes enfants, notre maman qui est à l'hôpital, que tu la visites. Notre frère qui doit peut-être se rendre chez le néphrologue régulièrement. Que tu le bénisses, que tu le guérisses. Tu en as guéri en notre âge. Ta puissance n'a pas diminué. Nos enfants qui sont infirmes de naissance, les médecins ont tout essayé. L'enfant a souffert de plusieurs opérations. Sois-nous miséricordieux. Puissions-nous trouver grâce à tes yeux. D'autres ont besoin de ton intervention afin que tu les rétablisses mentalement, comme tu l'as fait avec ce lunatique autrefois. Tu l'as fait, Seigneur. Si tu nous demandes ce matin, qu'est-ce que tu veux que tu nous fasses, nous te dirions, comme Bartimée avait dit, lui voulait recouvrer la vue, nous voulons te demander juste que nous puissions recouvrir la santé, car nous voulons nous réunir à nouveau, ensemble, te louer ensemble, te rendre gloire ensemble, t'adorer ensemble. S'il faut danser, que nous puissions tous danser ensemble. S'il faut sauter, que nous puissions tous sauter ensemble, courir ensemble, nous agenouiller ensemble. À cause du nom que tu nous as donné. Accomplis cela en notre faveur. Pour rendre gloire en ce nom merveilleux. L'homme découvre des choses qui nous découragent, mais nous, nous ne perdons pas espérance. Nous sommes des fils d'Abraham qui a espéré contre toute espérance. Et nous croyons de tout notre cœur que tu nous as entendus. Tes enfants t'ont prié, t'ont supplié. Ils ont revêtu le sac. Ils se sont mis de côté. Entends leur prière. Exauce-les. Et ils reviendront comme ce dixième lépreux était revenu pour te dire merci. Alors que nous allons rentrer, si nous manquons de foi, augmente-la, nous, Seigneur. Viens à notre secours, comme tu as secouru cet homme qui avait besoin que tu agisses en sa faveur, pour son fils. Nous nous attendons à toi. Et te demandons de raccompagner tes enfants lorsque tu vas les raccompagner. Nous voulons aussi te remettre ce petit moment que pour ceux qui peuvent rester avec nous, qui restent, que nous puissions remettre aussi cet enfant entre tes mains. Ses parents ont voulu que tu te souviennes de lui et que ta grâce soit sur ces familles que tu as bénies. Nous te remercions pour cela. Nous t'adressons notre prière et te remercions de nous avoir donné la force de nous consacrer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié et remercié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un cantique et nous allons souhaiter la bienvenue dans l'assemblée. Assois. Ceux qui sont pressés, c'est vrai, l'heure est avancée, il est 13h20, qu'ils veuillent bien m'excuser. Mais s'ils doivent partir, que le Seigneur les accompagne. Mais sinon, nous serions heureux de nous dire bonjour, sans problème.